maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter, si besoin est, Madame Isabelle Gressler, qui nous fait le plaisir et l'honneur de présider cette séance. Isabelle Gressler est un monument dans le protestantisme francophone, en tout cas francophone, puisque, ayant fait des études de théologie, pasteur, elle s'est vue confier la modérature de l'église protestante de Genève, ce qui était une première, je veux dire, depuis Jean Calvin. C'est ça. Et Isabelle a aussi dirigé le Musée international de la Réforme, dont elle a fait un haut lieu de culture. Le musée sous sa direction a notamment décroché un prix européen. Donc c'est pour nous une personne une personnalité qui se situe aux confins de l'histoire, de la muséologie et de la théologie. Donc c'est idéal pour une présidence de séance où justement nous allons parler idéologie, religion, quête de la paix ce matin. Un grand merci Isabelle.
Merci à vous. Oui, merci. Merci. Mesdames et messieurs, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Mon rôle sera essentiellement de vous présenter les orateurs et les oratrices de notre matinée, d'être draconienne sur l'heure et le timing, parce que ce qui est voulu, bien entendu, c'est d'avoir cet apport scientifique, et nous nous réjouissons de les entendre, et aussi, et en même temps, d'avoir une discussion avec le public. Donc c'est la raison pour laquelle nous aurons une première série d'interventions suivi d'un moment de discussion, de pause aussi, et ensuite une deuxième série d'interventions. Pour notre matinée consacrée spécifiquement au regard des milieux pacifistes, religieux et littéraires, je suis ravie de vous présenter, pour ouvrir les feux, Madame Valérie Lathion, docteur S. Lettres. Vous êtes Valérie Lathion, chargée de cours à l'Université de Fribourg. Vous avez aussi enseigné à l'Université de Genève. Vos domaines de recherche concernent la philanthropie, l'humanitaire et aussi les pratiques religieuses. Donc vous êtes particulièrement bien nommée pour nous introduire à cette matinée. Je précise le titre de votre communication, « La paix pour Dieu, pragmatisme humanitaire et idéal religieux dans les milieux protestants ». Je vous laisse la parole.
Mais je vous remercie. Comme nous l'avons déjà évoqué jeudi matin notamment, la mobilisation des esprits et des cœurs est massive dès le début de la guerre. Les églises, clergés et fidèles, ne font pas exception, même si leurs valeurs reposant sur l'amour du prochain pourraient les inviter à refuser la guerre ou à s'élever contre elle. À vrai dire, nous pouvons même constater que l'entrée en guerre s'est faite sous le signe de la religion, sous un syncrétisme entre les sentiments nationaux et les sentiments religieux, quel que soit le camp considéré. Et je peux rappeler à ce propos, en exemple, en suivant les historiens Stéphane Audouin-Rousseau et Annette Becker dans leur ouvrage 14-18 Retrouver la guerre, qu'à l'annonce de la mobilisation, les Berlinois silencieux et tendus, groupés à l'Alexanderplatz, entonnent spontanément non pas le Deutschland du Berles, mais le choral luthérien Gott tief im Herz. Ou bien, je pourrais citer de multiples exemples où le vocabulaire religieux est utilisé dans les discours politiques, ou bien des discours issus, des clergés, que ce soit catholiques ou protestants, justifiant la guerre et appelant à soutenir la mobilisation et l'effort de guerre. Cette ferveur débouche sur une hausse de la fréquentation des services religieux, qui réjouissent les autorités ecclésiastiques et font espérer un réveil de la population. Autant dans les religions catholiques, la ferveur de la mobilisation provoque des retours à l'autel. Dans les régions protestantes, on va plutôt parler de retour à Dieu. Mais, assez rapidement, devant la mort de masse, devant le deuil collectif, de nouvelles questions se posent par les chrétiens mobilisés. Comment croire au cœur d'un tel massacre? Pourquoi Dieu n'arrête-t-il pas cette guerre? Ainsi, Les valeurs chrétiennes sont-elles mises à mal par les impératifs de la guerre? Elles sont éprouvées par la contribution au niveau individuel et national à l'œuvre de destruction et de mort. Elles sont ébranlées par le deuil. Parmi les chrétiens, et plus précisément parmi les protestants, puisque je me limiterai à cette confession ce matin, s'ouvrent plusieurs options d'action et d'interprétation des événements qu'ils vivent ou dont ils sont les témoins. Certains se lancent dans l'action philanthropique et humanitaire, faisant preuve d'un pragmatisme à toute épreuve. Ils cultivent ainsi un des rôles traditionnels de la religion, à savoir la consolation des affligés, en veillant sur les blessés et les mourants au front, en soutenant les familles endeuillées à l'arrière, en œuvrant pour les réfugiés et les populations restées sous le joug des occupations. D'autres, ou les mêmes, parfois évidemment, essayent de garder à l'esprit l'idéal de paix que de nombreux d'entre eux défendaient déjà avant la guerre et œuvrent en ce sens. Parfois, cette quête de la paix est alliée à un idéal œcuménique naissant. Mais les rivalités confessionnelles restent fortes et, de plus, ces paroles de modération, de paix et d'obligation à la réconciliation future ne sont souvent guère audibles dans le concert nationaliste des belligérants. Nous l'avons déjà vu à propos justement de l'attribution du prix Nobel de la paix qui avait quelques difficultés à se faire entendre. Une troisième interprétation chrétienne voit le conflit comme une forme d'apocalypse qui ouvrira les portes d'un avenir meilleur et pacifié. Et pour les plus fervents, cette promesse messianique se réalisera par un réveil religieux global et une révolution sociale chrétienne. Alors est-ce que la paix à laquelle on tend, pour laquelle on se bat, sera-t-elle une paix pour Dieu? Sera-t-elle une paix qui ouvrira les portes d'un monde meilleur où le christianisme sera plus fort, où les chrétiens, les différentes confessions, œuvreront de concert? Bien que la mise à l'épreuve des valeurs chrétiennes puisse aussi conduire à leur anéantissement partiel ou total, les trois lectures chrétiennes des événements ont concouru, pour ceux qui les ont choisis, voire dressées en étendard, à affermir leur foi et à consolider leur conviction de vrai pour propager le royaume de Dieu, pour construire une paix pour Dieu. Au cœur de ces interprétations se trouvent l'action et les discours d'hommes proches ou faisant partie des unions chrétiennes de jeunes gens, fameuse YMCA, d'origine européenne et pas américaine, dont le plus charismatique dirigeant durant la Grande Guerre est John Raleigh Mott, futur prix Nobel de la paix, promoteur d'œuvres en faveur de la jeunesse comme les Unions chrétiennes de jeunes gens, mais aussi la Fédération universelle des associations chrétiennes des étudiants, dont il a été le fondeur et le leader, initiateur du mouvement œcuménique, méthodiste engagé, il est reconnu pour être un excellent prédicateur laïque, secrétaire général des Unions chrétiennes américaines, avant d'être secrétaire général de l'Alliance universelle des Unions chrétiennes dès 1915, qui a son siège justement à Genève, puis son président après la guerre, enfin à partir de 26. C'est d'ailleurs comme récompense pour avoir promu la fraternité religieuse à travers les frontières nationales, à avoir œuvré à la compréhension des peuples et à la réconciliation, et à avoir promu la paix en établissant et développant des organisations pour la jeunesse chrétienne, qu'il a reçu le prix Nobel de la paix en 1946 à 81 ans. En parcourant ces trois champs d'action par le biais de l'œuvre et du discours des unions chrétiennes, autant au niveau des unions nationales que de l'Alliance universelle, et de certains de ses représentants tels que John Mott, nous allons donc nous interroger sur l'articulation action humanitaire et quête de la paix dans une organisation où l'action est motivée par la foi et doit concourir à la raffermir et à la propager, où la religion est le fondement et le but de toute action. Comme le rappelle Mott dans un article publié avant la guerre, le service chrétien est la mission distinctive des YMCA. En choisissant la perspective d'une étude de cas des unions chrétiennes de jeunes gens, et en conséquence en prenant en biais protestant, je limite évidemment l'analyse des milieux chrétiens. Il est indéniable qu'un certain nombre de prises de position relatives à ce trio constitutif de l'interprétation du défi porté aux valeurs chrétiennes, évoquées il y a un instant, se retrouvent également chez les autres confessions chrétiennes. pourrait d'ailleurs évoquer de nombreux exemples pris dans les milieux catholiques, et nous en apprendrons davantage avec la contribution d'Olivier Prat qui suivra la mienne. De plus, en consacrant à l'étude du cas unioniste, je limite les possibilités de comparaison des initiatives et de la réflexion d'autres associations protestantes, ainsi que celles issues directement de la grande variété d'églises que connaît alors le protestantisme. On peut penser notamment à la centaine d'associations religieuses œuvrant pour les soldats britanniques ou aux Quakers, qui ont également aussi été évoqués, dont leur action pacifiste et humanitaire, comme on le sait maintenant, a été très importante. Alors débutons par le premier choix, l'action philanthropique et humanitaire. Je ne vais pas développer en détail cet aspect de la question, puisque j'en ai déjà longuement parlé à d'autres occasions et que plusieurs d'entre vous m'ont déjà entendu à ce propos. Quelques jalons, toutefois, seront utiles. Alors, dès le début de la guerre, les unions chrétiennes ont utilisé leur savoir-faire au service de la jeunesse et comme acteurs humanitaires dans des conflits précédents, par exemple la guerre des Bourgs, pour mener une action pragmatique en faveur des soldats, notamment avec l'œuvre des foyers du soldat sur le territoire français, une œuvre qui a été organisée par un représentant français du comité de l'Alliance universelle, mais financée par des fonds américains, ou avec des actions spécifiquement nationales, par exemple l'IMCA britannique travaillant de concert avec l'armée britannique, et la même chose dans d'autres pays. Mais c'est sans aucun doute le travail des unions chrétiennes, et en particulier de l'IMCA américaine, dans les camps de prisonniers et d'internés, qui explicite le mieux l'action des unions chrétiennes en général, et surtout le fondement de leur démarche. En effet, leur travail pour améliorer les conditions de vie, le quotidien des prisonniers, est bienvenu. Que ce soit par le biais d'installations de bibliothèques, de mise à disposition de papiers pour correspondre, d'instruments de musique, d'organisation de tournois sportifs et d'autres activités récréatives, et j'en passe. De même, le rôle de lien entre la famille et les prisonniers, en favorisant la correspondance, évidemment, mais aussi les transferts d'argent bien utiles pour pouvoir notamment acheter de la nourriture. Cette action humanitaire est toutefois la conséquence d'un idéal moral qui justifie l'action. L'incarcération, je veux dire, doit être perçue comme une opportunité de s'améliorer soi-même. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, voire de sombrer dans la folie, ces hommes élèveront leur âme et quitteront les camps en étant devenus des hommes meilleurs. Que ce soit pour les soldats ou pour les prisonniers de guerre, l'amélioration du quotidien et la lutte contre l'oisiveté passent évidemment, pour les unions chrétiennes, par une œuvre religieuse qui concourt à faciliter le travail des aumôneries, en mettant par exemple à disposition des chapelles ou des salles pour les services religieux, et qui concourt finalement aussi à favoriser le rapprochement des confessions, encore souvent rivales. L'œcuménisme pragmatique des unions chrétiennes, qui offre ses locaux aux différentes confessions protestantes, mais aussi aux catholiques, aux orthodoxes, aux juifs, peut ainsi paraître comme avant-gardiste. Il est surtout une conséquence de l'idée couramment admise par les instances des unions chrétiennes qui analysent la guerre comme une opportunité religieuse unique afin de provoquer un vaste réveil religieux. Cet œcuménisme pragmatiste est-il simplement la conséquence d'un état de fait ou est-il révélateur d'un idéal œcuménique plus large qui émergerait alors? La contextualisation invite à pencher pour la seconde hypothèse. En effet, la seconde option pour les chrétiens que j'avais évoquée en préambule était de garder le cap de la paix dans une optique de rapprochement des peuples et de rapprochement des chrétiens, donc avec un idéal œcuménique. L'articulation quête de la paix et idéal œcuménique est durant la Grande Guerre incarnée au sein des unions chrétiennes dans la personnalité de John Mott. Quelques années avant la guerre, le mouvement œcuménique est en effet lancé lors d'un congrès des missions tenu à Édimbourg en 1910 dans un esprit très pragmatique puisque l'unité des chrétiens est vue comme une solution aux problématiques missionnaires. À la présidence de ce congrès, on trouve John Mott, qui voit dans la recherche de l'unité des chrétiens une garantie de paix future. On le retrouve également, John Mott, au sein de la toute jeune Alliance universelle des églises pour promouvoir l'amitié internationale, au cœur donc des réseaux pacifistes et des réseaux évangéliques. Pour la petite histoire, cette alliance devait tenir son congrès constitutif les 3 et 4 août 1914, à Constance. La collusion avec l'entrée en guerre est évidemment une ironie de l'histoire. Les délégués qui étaient déjà arrivés, dont Motte, se démènent pour tenter de maintenir la paix en envoyant des missives aux dirigeants qui restent évidemment sans réponse. Ce qui est intéressant pour notre réflexion est que cette tentative est motivée par des raisons évangéliques et qu'elle est un des rares exemples de voie de pondération dans la ferveur immédiate de la mobilisation. Ces voix chrétiennes qui ne sont guère entendues font évidemment écho aux initiatives de l'autre grande figure qui allie quête de la paix et idéal œcuménique durant la guerre, durant la Grande Guerre, Nathan Söderblom, archevêque luthérien d'Uppsala en Suède, que nous avons déjà brièvement évoqué jeudi matin. Lui aussi d'ailleurs obtiendra le prix Nobel de la paix en 1930 pour avoir su impliquer les églises dans l'œuvre en faveur de l'union œcuménique et la paix mondiale. En effet, son appel pour la paix et pour la communion chrétienne, qui est comme en écho des déclarations mal comprise de Benoît XV en 1914. Cet appel de la paix est non seulement inaudible dans la ferveur nationaliste, mais est carrément considéré comme inacceptable. Et même les hauts dignitaires anglais, allemands, français, donc ecclésiastiques qu'ils consultent, lui répondent tous que le moment n'est pas venu de parler de paix. Söderblom ne baisse pas pour autant les bras. Son action en faveur de la paix, mais aussi son action humanitaire en faveur des réfugiés et prisonniers de guerre, est l'un des exemples les plus connus de l'investissement chrétien en la matière. La justification évangélique de son action dans une optique de rapprochement des peuples et des chrétiens est, par rapport à nos thématiques, riche de sens et rejoint l'attitude des unions chrétiennes. Autant Söderblom que Mott font preuve d'une incessante activité alliant pragmatisme et idéal. Mott sillonne en effet l'Europe dès 1914 pour le compte des unions chrétiennes, mais aussi pour celui de la Fédération universelle des associations chrétiennes des étudiants, et même comme envoyé diplomatique de Woodrow Wilson. Il participe du reste à la mission Root, envoyée par Wilson en Russie au début 1917, pour convaincre le gouvernement provisoire de continuer la guerre afin de ne pas affaiblir par une paix séparée l'entente. Mott, ainsi que quelques-uns de ses compagnons de mission, profitent de l'occasion pour établir des liens avec des ecclésiastiques et des fidèles de l'Église orthodoxe, voulant préparer la paix de demain, qui, selon lui, devra se baser sur un rapprochement des chrétiens. Cette diplomatie évangélique témoigne de la certitude que l'idéal œcuménique se réalisera une fois la guerre terminée. Cette certitude rejoint les attentes messianiques que j'ai évoquées au début de ma communication. La future paix doit donc servir Dieu. Elle sera l'occasion de bâtir un monde meilleur, où le rapprochement des églises, où l'unité des chrétiens sera la première marche vers un rapprochement des peuples. Les unions chrétiennes font paradoxalement autant preuve de pragmatisme par leur implication au jour le jour que d'idéalisme sur cette question. Leur action d'aide spirituelle et morale est d'ailleurs saluée comme un témoignage d'œcuménisme pragmatique et de christianisme attractif, puisqu'elle s'adresse à tous les hommes et contribue finalement à les convaincre parfois. Mais elle sert également au rapprochement des peuples. L'œuvre unioniste, et plus spécifiquement l'action d'aide spirituelle et morale, doit ainsi, je cite, « combler l'abîme de méfiance et de haine creusée par la guerre entre les nations ». Elle doit faire preuve de solidarité unissant les membres dans une grande famille au-dessus des antagonismes nationaux. De plus, les unions chrétiennes nationales, notamment britanniques et américaines, s'investissent fortement dans la propagation d'un réveil religieux auprès des soldats dans un premier temps et plus largement dans la population, puisque la société doit être régénérée, puisqu'une révolution sociale chrétienne doit se produire. Ce rôle évangélisateur a aussi été promu au sein des foyers du soldat, et à la fin de la guerre, les débats relativement polémiques quant à l'avenir de ces foyers, notamment s'il faut les transformer en foyers civils, nous permettent de mieux comprendre le positionnement des unionistes. En effet, ces foyers sont alors vus comme un instrument d'action sociale et morale, d'un moyen puissant de rénovation sociale et morale. L'accent est alors mis non seulement sur leur rôle préventif, comme nous l'avons vu, contre l'oisiveté, contre les vices, contre la folie, mais aussi et surtout sur leur rôle constructif, que ce soit au niveau humain, ne pas devenir des brutes, éducatif, ne pas se contenter de s'amuser, moral, donner de la valeur à la vie en collectivité, à la vie familiale, et religieux, Il va sans dire que cette vision constructive des foyers n'échappe pas à un biais moralisateur qu'il faut évidemment replacer dans le discours de l'époque. Je viens de parler de l'aspect polémique des débats quant à l'avenir de ces foyers dans une société d'après-guerre. Ce qui est assez intéressant par rapport à notre thématique, c'est que le principal débat quant à la transformation des foyers de soldats en foyers civils a été de savoir s'il fallait maintenir une action évangélisatrice active ou se contenter de témoigner d'une vie chrétienne conséquente. Dans les deux cas, même si les moyens sont différents, le but est le même, à savoir œuvrer pour un réveil religieux, pour une renaissance chrétienne. En conclusion, nous pouvons constater que pour les unionistes, du moins, l'action humanitaire et pacifique est avant tout motivée par un idéal chrétien. Certaines questions restent toutefois encore ouvertes. La pondération entre cet idéal et les exigences pratiques de l'action humanitaire. Ou encore, la pondération de cet idéal dans des cercles chez des personnalités qui ne se définissent pas ouvertement comme menant une action religieuse. Un autre élément de conclusion peut se voir dans la question de savoir en quoi l'action humanitaire peut être analysée comme une alternative devant le fait que les discours de paix ne rallient guère de fidèles ni d'ecclésiastiques généralement solidaires du combat mené par leur pays. Voire même qu'une attitude pacifiste peut soit être considérée comme défaitiste, soit être suspectée d'être le paravent d'une préférence entre les belligérants. Les initiatives du début de la guerre de Motte avec ses compagnons de l'Alliance universelle des Églises pour promouvoir l'amitié internationale ou le Sonderblom sont évidemment à reprocher de celles du pape. Dans tous les cas, l'action humanitaire qui suit ces déconvenues peut être analysée comme une alternative. Enfin, je terminerai avec ceci, on peut dire que pour les unions chrétiennes, la paix se construit déjà dans la guerre. Certes, par leur action d'aide sociale, morale et spirituelle qui doit reconstruire les hommes, en leur offrant une opportunité de s'améliorer soi-même, et par là, la société qui doit provoquer un réveil religieux, une régénération chrétienne et sociale, mais également par une volonté de promouvoir l'œcuménisme naissant et par là, le rapprochement entre les peuples. Dans les discours du moins, on peut donc affirmer que les unionistes persuadés que dans mal peut naître en bien, ont voulu consacrer la paix future à Dieu dans un idéal de renaissance chrétienne. Je vous remercie.